Nous sommes dans le studio en compagnie d'Emmanuel Provost, qui est galériste et passionné d'art contemporain. Il vient d'ouvrir dans le Vieux-Lille la New Square Gallery avec une exposition de Tank. Alors Emmanuel Provost, comment l'art contemporain est-il entré dans votre vie ?
Je pense pas m'en souvenir.
Ah ben voilà, ça commence bien.
Je pense pas m'en souvenir. Je pense que ça doit être inconscient. Et c'est surtout, je pense, grâce à des parents qui ne l'étaient pas du tout, mais qui ont eu cette intelligence de m'emmener voir des expositions et de m'emmener dans des musées très tôt. Et qui ont eu cette intelligence de dire, nous, c'est peut-être plus notre époque, ou c'est peut-être pas notre époque, ou nous, on est peut-être sensible à figuration, à des choses comme ça, mais toi, tu vas peut-être comprendre quelque chose. et je pense que j'ai compris assez vite plein de choses. En tout cas, j'ai été, à défaut de comprendre, j'ai été sensible à, très tôt à ces choses-là. Et puis, c'est quelque chose que j'entretiens depuis 15-20 ans maintenant. Dans le milieu des galeries, dans les ateliers d'artistes, sur les cimaises, voilà.
En tout cas, vos parents avaient fait un bon pari sur l'avenir.
Oh, je ne sais pas s'ils avaient parié à l'époque.
Sait-on jamais. Quand vous dites que vous avez beaucoup fréquenté les musées et les expositions, donc très jeune, c'est là que s'est formé votre goût, mais est-ce que vous avez été plus loin en termes d'études ?
Alors, moi je suis un étudiant qui n'était pas destiné du tout à faire ce genre de choses. Je suis un étudiant scientifique, vous voyez, on est dans cette cité scientifique, et je suis ingénieur thermicien, physicien de base. Et donc j'étais absolument pas destiné à ça. Et puis ensuite j'ai atterri dans le milieu des assurances pour gagner ma vie, fais encore.
Donc ingénieur, ça marche pas. Hein? Ingénieur, ça marchait pas.
Non, écoutez, je crois que mon père voulait que je sois ingénieur automobile, ma mère violoniste. Et j'ai fini assureur et galeriste.
Oui, effectivement, c'est.
Je voulais pas créer la discorde.
Oui, il y a un parcours un petit peu atypique.
Oui, mais vous savez. L'atypisme, c'est aussi, ça fait partie aussi de cette notion d'art, d'art contemporain, entre autres. Donc j'entretiens plutôt ce caractère atypique.
Donc voilà. Vous n'êtes pas mis au violon entre-temps ?
J'ai fait du violon.
Ah, vous l'avez
fait ? J'ai fait 15 ans de violon.
Ah oui, quand même.
Eh oui, ah, que oui. Voulez-vous ? Ah, j'aime bien toucher à tout.
Vous pourriez presque rentrer dans l'orchestre Douai dont on va parler tout à l'heure.
J'ai fréquenté des orchestres régionaux aussi. Voilà.
Alors, la sensibilisation, c'est une chose, et la collection en est une autre.
Oui.
Pourquoi vous avez sauté le pas ?
Parce qu'un collectionneur, en tout cas je l'analyse comme ça, en tout cas pour ma part, j'ai eu besoin de posséder très vite des œuvres. Le fait de fréquenter des musées, des expositions, c'est très bien, mais il y a un moment donné où on a besoin de posséder des œuvres, on a besoin de se lever le matin, de les regarder, on a besoin de se coucher le soir et de les avoir en face de soi, et on a besoin de les avoir.
De vivre avec.
De vivre avec, tout simplement, on a besoin de les intégrer dans son cadre, et puis c'est là aussi qu'on se rend compte qu'en collectionnant, les œuvres tournent, on s'en lasse. Ce qu'on aimait il y a 15-20 ans, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, ou alors c'est encore plus le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est, notre goût évolue, et donc on a besoin de faire tourner, on a besoin de sans arrêt acheter, parce que je dissocie pas art et argent, malheureusement, on a besoin sans arrêt de posséder des choses nouvelles, des choses intéressantes, des choses qui nous font aller dans d'autres univers, et puis voilà, on a un besoin. Et puis c'est une pathologie.
Oui, je pense. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous faire que des amis en associant l'art et l'argent, mais ceci est un autre sujet. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers achats ?
Oui. Oui, mes premiers achats, c'est très simple. J'évoluais justement dans une ville de province où évoluait aussi un peintre qui s'appelait Jean Messager, qui est mort d'ailleurs en 99.
Et la ville est ?
Comment ?
La ville ?
Montbéliard, ah oui, dans l'est de la France. Et lui avait un moulin, il avait son atelier là. C'était un ancien Parisien qui avait émigré dans l'est de la France. Et puis qui avait fait toute sa vie là et qui avait fait des expositions incroyables. C'est un peintre du nuagisme, de l'abstraction, l'abstraction lyrique. Et donc, j'ai évolué toute mon enfance dans ce milieu-là. Quand j'avais 10 minutes, j'allais traîner au musée local où traînaient quelques toiles de Jean Messager. Et je crois qu'une des premières choses que j'ai acquises, c'est une toile de Jean Messager. Voilà. Donc ça n'a rien à voir d'ailleurs avec de l'art contemporain, puisque c'était une toile des années 70 et nous étions dans les années un petit peu après.
Et vous l'avez connu cet artiste? Est-ce que...
Je l'ai connu, pas personnellement, enfin je l'ai connu, je l'ai rencontré quelques fois étant adolescent. Mais son œuvre m'a beaucoup marqué et me marque encore aujourd'hui.
Ouais. Est-ce que dans l'envie et le plaisir de collectionner l'art contemporain, il n'y a pas aussi toute la rencontre humaine qui va avec? Parce que si vous collectionnez Rembrandt ou le XVIIIe siècle ou le Moyen-Âge, bon, les artistes ne peuvent plus vous raconter quelque chose, vous ne pouvez plus avoir de contact avec eux. Les contemporains, vous pouvez. Est-ce que
c'est
ça joue, ça?
Ça, c'est la richesse de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer les artistes. Et on peut savoir ce que les nouveaux artistes, les artistes d'aujourd'hui, les artistes actuels, ressentent. Alors je pense que ça ne doit pas être très très loin de ce que ressentaient les artistes du 17, du 18, du 19e. Hein. Mais disons que c'est toujours bien, c'est toujours impressionnant de se dire, de se faire expliquer un ensemble d'œuvres par l'artiste lui-même, ce qui est un privilège. Et puis, quelquefois même, les artistes, à deux jours d'intervalle, l'expliquent différemment. Donc ça explique aussi pas mal de choses concernant l'état d'esprit des artistes d'aujourd'hui, ce qu'ils font, comment ils ressentent. C'est très intéressant. C'est très intéressant.
Et puis collectionner, c'est aussi faire partie un petit peu de l'histoire de l'art de son temps, parce que c'est être en rapport avec les artistes. Donc les artistes ont besoin des collectionneurs, et voilà, et ça fait un tandem.
Et oui, c'est le chat qui se mord la queue. Mais chacun a besoin chacun a besoin de l'autre. Et c'est drôle parce que tout à l'heure on a entendu cette phrase, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Et je trouve qu'en art contemporain, on a souvent raison d'avoir raison trop tôt. C'est drôle, vous avez sorti cette phrase tout à l'heure de Marguerite Yourcenar. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a besoin de découvrir des choses nouvelles. Alors nouvelles, on a besoin de découvrir des choses qui sensibilisent, qui donnent une émotion. Parce que, vous savez, depuis le début de siècle, depuis les fauves, finalement, on a cherché à reproduire des choses, à faire des choses nouvelles, à fréquence plus ou moins importante. Hein, c'est-à-dire que tous les 20 ans, ou tous les 15 ans, ou tous les 10 ans, il y avait des choses nouvelles. Aujourd'hui, dans l'art contemporain, on essaye de faire des choses nouvelles tous les jours. C'est à celui qui repoussera le plus les limites.
Oui, et ça, c'est
alors
pas...
on met un requin dans du formol.
Voilà. C'est pas possible indéfiniment. Ouais.
Ah non. Ah, c'est pas possible indéfiniment. Je suis d'accord, mais beaucoup d'artistes trouvent encore les ressources de le faire aujourd'hui et apportent encore quelque chose. Alors peut-être que le sujet de demain, ça sera lequel de ces artistes apportera réellement une émotion associée à une nouveauté. Et une émotion et peut-être un esthétisme, parce que il faut peut-être qu'on redécouvre aussi l'esthétisme également dans l'art contemporain. C'est une des choses que j'ai envie de parcourir. Enfin, c'est un de mes voyages.
Voilà. Alors justement, puisque c'est le moment d'enchaîner avec la galerie, pourquoi ouvrir une galerie maintenant? Donc vous auriez pu peut-être le faire avant, vous auriez pu le faire après. Non, c'est maintenant. Pourquoi?
Oh, c'est maintenant parce que... vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, vous m'auriez posé la même question peut-être.
Oui, donc, bien sûr, mais vous ne l'auriez
peut-être
pas.
Peut-être que dans 10 ans, si je ne l'avais pas ouverte, vous m'auriez posé cette question. Alors il y a un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a un déclic. J'ai fait la rencontre de quelqu'un qui m'a apporté son soutien aussi dans l'aspect matériel de cette galerie, qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, avant de devenir, il est terminé le temps des galeristes richissimes. Avant de devenir richissime,
oui,
comme l'étaient certains de les pionniers, comme
oui,
Sacchi,
les Canveillers, etc.
Comme les Castelli. Vous savez, on rame et on fait beaucoup de choses dans le vent. On brasse beaucoup de vent, on fait beaucoup de choses dans le vide et on essaye de s'en sortir. Mais aujourd'hui, bah voilà, c'était le déclic, c'est aujourd'hui. J'étais connecté au milieu de l'art, j'étais connecté à des réseaux d'artistes, de galeristes, à des maisons de vente, des agents, etc. Donc aujourd'hui, voilà, ce besoin était réalisé. Voilà.
Alors, ouvrir une galerie à Lille, c'est peut-être un pari risqué?
C'est un pari risqué, oui. C'est un challenge, en fait. C'est un challenge parce qu'une vraie galerie d'art contemporain à Lille, vous savez, les collectionneurs, il y en a beaucoup. C'est sans doute peut-être même une des régions en France et en Europe même où il y a le plus de collectionneurs d'art contemporain. Et ces collectionneurs, ils vont à Bruxelles, ils vont à Paris, ils vont à Londres, ils vont à New York.
Ils vont là où ça se passe.
Ils vont là où ça se passe, absolument. Donc je pense qu'aujourd'hui, Lille est une ville qui fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses d'un point de vue public. Malheureusement, il y a très peu de privés comme nous qui sommes là pour relayer ces choses. Et demain, bah, le pari, c'est qu'il y a encore plus de galeries qui s'ouvrent dans ce sens-là, parce que je pense que le seuil critique des galeries n'est pas encore atteint pour que les gens restent et les gens découvrent l'art aussi à Lille. Donc on va essayer de les retenir. Puis en même temps, c'est un challenge, mais vous savez, j'ai envie, moi, de conquérir les nouveaux collectionneurs. J'ai envie de conquérir les jeunes quadras qui commencent à s'installer dans leur vie, à réfléchir à ce qu'ils aimeraient faire aussi de leur argent. Voilà.
Alors, ce qu'ils aimeraient faire de leur argent, ouais. Dans un premier temps, c'est acheter un tank.
Bien sûr. Alors, un tank, oui. Voilà. Tout à fait.
Et pourquoi tank ?
Pourquoi tank ?
En deux mots et demi.
En deux mois et demi, d'accord. Eh bien, tant que c'est un jeune artiste d'une trentaine d'années qui a commencé dans la rue et qui termine dans les galeries d'art contemporain. Il est présent aujourd'hui à New York, il est présent à Marrakech, il est présent à Paris et dans des collections d'art contemporain. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a réduit son art à un trait et qui l'exploite aujourd'hui, qui le construit, le déstructure et qui est présent dans la galerie. C'est une de ses grandes expositions françaises aujourd'hui. À Tank. Et c'est un très bel artiste.
Bon, eh bien, il ne reste plus qu'à dire aux auditeurs qu'il faut qu'ils aillent au 40 rue Voltaire.
40 rue Voltaire, c'est ça.
Voilà. Ça s'appelle la New Square Gallery. Un téléphone ?
Oui, le 03 20 12 09 00.
Parfait.
Voilà. Et c'est un site internet qui est bientôt actif dans les jours qui suivent.
Oui, voilà. Pour l'instant, sur le site internet, on trouve les coordonnées.
Voilà.
Et dans quelques temps, on trouvera beaucoup plus.
Ce sera très actif.
Emmanuel Provost, merci.
Merci Françoise.